France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, j'ai piqué.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous souhaitez nous parler aujourd'hui de l'état de santé des hommes politiques.
Et tout d'abord, je précise que je ne suis pas en train d'imiter Don Corleone, mais que j'ai une vraie extinction de voix.
Ouais.
Savez-vous Mathieu, ce qu'est une maladie professionnelle?
Ça touche quoi, des gens qui bossent a priori, non?
Ben c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est une affection qui est due à l'exposition à un risque, qui est associée à une profession, la silicose des mineurs par exemple. Alors, la maladie professionnelle, ça se différencie de l'accident de travail par son caractère chronique et son apparition progressive. En fait, c'est plutôt une définition administrative, hein, et la liste des maladies professionnel est publié dans le code de la sécurité sociale.
Alors, vous êtes intéressé aux maladies professionnelles des hommes et femmes politiques?
Bah oui, après une recherche très scrupuleuse, hein, la seule maladie répertoriée dans les listes officielles qui pourrait être facilement rattachée à l'exercice de la vie politique, c'est la tendinite provoquée par les serrages de mains énergiques et répétés sur les marchés en période électorale, le tennis elbow. Mmh. Mais heureusement, le législateur a prévu et même étendu récemment le champ des maladies psychiques qui peuvent être reconnues comme des maladies professionnelles, à commencer par l'épuisement professionnel, le burn-out en anglais.
Et pour la folie?
Ouais, vous pensez à l'aphorisme de Lord Acton, le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend absolument fou. En fait, cet aphorisme pose l'éternel dilemme de l'œuf et de la poule. Est-ce le pouvoir qui altère l'empathie ou l'altération de l'empathie qui facilite l'accès au pouvoir? La mode actuelle est de présenter Donald Trump comme un fou, un psychopathe, alors que c'est finalement juste un plouc qui est doté d'une grande intelligence politique.
Vous avez écouté La Tête au Carré, ou parce qu'on
en
a parlé.
Je vois bien
votre petit tac, là, je l'avais repéré.
L'histoire est peuplée de dictateurs qui ont manifesté des comportements abominables. Or, les rois, ils héritaient de leur pouvoir, il n'y avait toujours pas de sélection préalable. Et puis, il n'y a pas besoin d'études scientifiques quand même pour constater que beaucoup de gens ordinaires prennent un melon invraisemblable lorsqu'on leur confie des responsabilités importantes. Mais nous disposons tout de même d'expériences qui démontrent que le pouvoir modifie les comportements. Je pense à une publication dont je vous avais parlé ici en 2012. Elle montrait que le conditionnement préalable d'individus pour leur donner conscience d'appartenir à une catégorie sociale supérieure augmentait leur comportement antisociaux.
Oui, ben ça c'est quand même très inquiétant.
Eh oui Mathieu, eh oui. En fait, le pouvoir s'agit plutôt comme une drogue. Son exercice réveille nos vieux instincts de primates en compétition pour la nourriture ou la reproduction. Chez les mammifères grégaires, les mâles dépensent beaucoup d'énergie pour acquérir une position dominante, mais surtout pour la garder. Et je ne sais pas si on peut parler de folie pour quelque chose qui est finalement aussi naturel. L'erreur, en fait, c'est de ne pas tenir compte de ça et de croire qu'un homme ou une femme politique élue consacrera son énergie à faire le job, alors que sa priorité devient rapidement sa réélection. C'est donc, à mon sens, une vraie maladie professionnelle au sens d'une toxicomanie, mais dont les victimes sont les électeurs et non le malade lui-même. Un traitement efficace pourrait consister à limiter les fonctions électives à un mandat unique, car en matière de drogue, on devient rarement accro si on ne peut en prendre qu'une fois.
Merci Dominique, une chronique à réécouter sur franceinter.fr et la semaine prochaine, soignez-vous bien.